Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du jeudi 7 mai 2020. Eric Manelakis à la présentation. Voici d'abord les titres. Après avoir été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est maintenant accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État.
Selon Guillaume, c'est présenté pour être candidat. Qu'on les laisse qui se présentent en 2020 comme candidat aux élections présidentielles.
Moi, je crois que le pouvoir a raison, parce que moi, je me réfère toujours à la rébellion.
En Centrafrique, la justice ouvre une enquête pour crimes de guerre et contre l'humanité après un autre massacre de civils en Délé. L'OMS met en garde les dirigeants africains faisant la promotion des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique validé. En Israël, finalement, un gouvernement d'union et d'urgence entre en fonction dès le 13 mai. L'Irak aussi s'est doté d'un gouvernement après 5 mois de vacances du pouvoir. Également, dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. La justice centrafricaine vient d'ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre après le massacre récent d'une trentaine de civils en Délé dans le nord-est du pays. Claire Morin-Jubourg.
Le procureur général Éric Didier Tambeau a annoncé l'ouverture d'une enquête en déclarant qu'une trentaine de corps, dont une femme et son bébé, ont été dénombrés suite à son déplacement à Ndélé après une attaque la semaine dernière. Nous concluons aux infractions suivantes. Assassinat, crime de guerre et crime contre l'humanité, a poursuivi M. Tambeau. Le 29 avril, 28 personnes, dont au moins 21 civils, ont été tuées selon la MINUSCA, qui a fait état de combats entre deux factions issues de l'ex-Séléka. Le 11 mars, de violents combats entre ces mêmes factions avaient déjà fait au moins 13 morts à Ndélé, en majorité des combattants. Le procureur a précisé que les leaders de ces bandes armées sont les principaux suspects. Autrefois réunis au sein du même groupe armé, les combattants des ethnies Goula et Runga s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle des gisements miniers et de la taxation des routes dans ce territoire qui échappe au contrôle du pouvoir central.
Selon le commandement de l'armée américaine en Afrique, un drone américain s'est à nouveau écrasé le 23 avril dans le nord du Niger. Le deuxième drone perdu après la chute d'un précédent le 29 février dans la zone d'Agadez. Les États-Unis disposent d'une importante base de drones armés à Agadez, destinée à la lutte contre les groupes djihadistes dans la bande sahélienne. La France possède une base près de l'aéroport de Niamey, d'où décollent des avions de chasse et des drones récemment armés. Toujours au Niger, les autorités sanitaires ont lancé un appel à la population de Niamey à se rendre à nouveau dans les centres de santé moins fréquentés depuis l'arrivée du coronavirus et la peur d'être contaminés. Des centaines d'agents de santé qui ont eu contact avec des malades ont été mis en quarantaine. Depuis, de nombreux patients se méfient des centres de santé par peur d'attraper la maladie. Le Sénégal continuera à interdire le rapatriement des corps de ses ressortissants décédés à l'étranger du Covid-19. La justice a rejeté jeudi la requête des proches de dizaines de défunts dont les dépouilles sont bloquées en Europe ou aux États-Unis. Cette décision a causé des situations de profonde détresse chez les proches, soucieux d'enterrer leurs parents au Sénégal pour des raisons religieuses ou simplement pour pouvoir se recueillir régulièrement sur leur tombe, disent leurs avocats, affirmant que le risque sanitaire est inexistant. La responsable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour l'Afrique, a rappelé jeudi à l'ordre les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans test scientifique sérieux. Madagascar a livré au Niger et plusieurs pays africains des lots d'un breuvage à base d'Artemisia, une plante utilisée contre le paludisme, présentée par le président Andry Rajoelina comme efficace contre le Covid-19. Les éventuels effets préventifs, voire curatifs de cette tisane n'ont été validés par aucune étude scientifique. Thomas Lubanga, ancien condamné de la Cour pénale internationale, a invité jeudi une milice à cesser de massacrer des civils en Ituri, dans le nord-est de la RDC, les mettant en garde contre des crimes contre l'humanité dans une conférence de presse. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a officiellement déposé jeudi sa candidature à sa propre succession, qui doit se rejouer le 2 juillet après l'annulation pour fraude de sa victoire l'an dernier. M. Mutharika a fait appel de l'invalidation du scrutin et la justice doit rendre sa décision vendredi. Son principal adversaire sera de nouveau M. Chakwera, soutenu par le vice-président Saulos Chilima, qui avait rassemblé 20,2% des suffrages en 2019. Peter Mutharika et Lazarus Chakwera seront opposés à Peter Kouani, le chef d'un petit parti qui avait réuni 0,4% des voix l'an dernier. Une vidéoconférence à laquelle participaient jeudi les députés sud-africains a été piratée avec des images pornographiques, provoquant l'interruption momentanée de la réunion. Quelques minutes avant le début officiel de la réunion, organisée de façon virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19, les parlementaires ont vu des photos pornographiques sur leur écran et entendu des voix non identifiées insulter la présidente de l'Assemblée nationale, Sandy Modise, qui présidait la réunion, ont rapporté les médias locaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a suggéré jeudi, lors d'un appel à son homologue russe Vladimir Poutine, d'impliquer la Chine dans de nouveaux pourparlers sur la limitation de la course aux armements. La Maison-Blanche estime que la capacité nucléaire et de missiles de Pékin est en rapide expansion. La pandémie du Covid-19 a fait au moins 263 000 morts et touché plus de 3,7 millions de personnes dans le monde. Toutefois, le déconfinement se précise dans plusieurs pays, n'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Aux États-Unis, pays le plus touché au monde, au moins 43 sur les 50 ont déjà commencé ou annoncé l'allègement progressif des mesures de restriction permettant à certains secteurs de reprendre leurs activités. L'Allemagne a décidé de franchir de nouvelles étapes dans le déconfinement en annonçant un retour à la normale pour ce mois des écoles et du championnat de football. La France donne ce jeudi les détails de son plan de déconfinement à partir du 11 mai. Mais le Premier ministre Édouard Philippe a déjà prévenu que le déconfinement se déroulerait de manière progressive et différenciée. Le gouvernement britannique prolonge formellement ce jeudi le déconfinement avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement de certaines restrictions. En Grèce, le gouvernement annonce la réouverture pour le 18 mai de sites culturels phares comme l'Acropole d'Athènes, monument historique de l'Antiquité grecque, ainsi que tous les sites archéologiques. Les musées seront ouverts le 15 juin. Aux Pays-Bas, les restaurants, cafés et musées vont rouvrir à partir du 1er juin.
Après la Cour suprême, le Parlement israélien a validé ce matin le gouvernement d'union entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ex-chef de l'armée, Benny Gantz, qui doivent prêter serment le 13 mai. Nathalie Barche.
71 députés de la Knesset ont voté en faveur du gouvernement d'union et 37 contre. Hier soir, la Cour suprême a donné son feu vert sans toutefois dédouaner Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption. Outre le partage du pouvoir et le maintien de M. Netanyahou au poste de Premier ministre pour les 18 prochains mois, le gouvernement aura pour tâche de gérer le déconfinement et le redémarrage de l'économie. M. Netanyahou a déjà annoncé la réouverture des écoles primaires et d'une majorité d'entreprises, et des milliers d'ouvriers palestiniens ont pu reprendre leur travail côté israélien. L'accord prévoit aussi l'annonce en juillet d'un plan pour la mise en œuvre du projet du président américain Donald Trump sur le Proche-Orient, qui prévoit notamment l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain.
Après 5 mois de vacances du pouvoir, l'Irak s'est doté d'un nouveau gouvernement qui hérite d'une économie à genoux, de relations diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations face à l'austérité. Les précisions de John Lyndon.
Devant des députés portant le masque et des gants en raison du coronavirus, Mustafa Al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du renseignement, a prêté serment avec 15 de ses ministres. Les portefeuilles des affaires étrangères et surtout celui du pétrole restent vacants. Le nouveau gouvernement doit s'atteler dès maintenant à rassurer les Irakiens frappés par le chômage endémique renforcé par le confinement. Avec la chute du prix du baril, les recettes pétrolières ont été divisées par 5 en une année. Dès l'annonce de la formation du gouvernement, Kazimi, longtemps considéré comme l'homme des Américains à Bagdad avant de se rapprocher de Téhéran, les États-Unis ont semblé tendre la main. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a appelé le nouveau Premier ministre pour lui annoncer la prolongation de 4 mois des exemptions permettant à l'Irak d'acheter de l'énergie iranienne en échappant aux sanctions américaines. Le chef de la diplomatie iranienne a dans un tweet félicité M. Kazimi. Le nouveau gouvernement doit aussi tenter de renouer avec la classe politique la plus fragmentée de l'Irak, poste Saddam Hussein.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Muniteco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
Le Bénin, premier producteur de coton d'Afrique de l'Ouest, a enregistré des progrès substantiels dans ses récoltes, mais aussi de soja, d'anarcade ou encore de riz en 2019-2020. Plus de 732 000 tonnes de coton. L'an dernier, la principale production agricole d'exportation du pays a enregistré une progression de 8% par rapport à l'année précédente. En 2018, le Bénin a pris la tête des pays producteurs d'or blanc en Afrique de l'Ouest en réalisant une production de 678 000 tonnes. Performance mitigée pour la compagnie minière Kinross Gold, active en Afrique de l'Ouest. Elle a produit pour les trois premiers mois de l'année un total d'environ 667 000 tonnes onces d'or à un coût global de 993 dollars l'once. Cela représente une baisse de 6% en glissement annuel et s'explique, à en croire la société, par des résultats décevants sur certains projets, notamment Chirano au Ghana, mais aussi par la fin de la production à Maricunga au Chili. La société a enregistré de bons résultats grâce à la hausse du cours de l'or qui a permis de générer un chiffre d'affaires d'environ 879 millions de dollars au premier trimestre contre environ 786 millions de dollars à la même époque en 2019. Rappelons qu'en dehors de Chirano, Ghana, la société possède une mine en Mauritanie et divers actifs en Amérique et en Russie.
Sans transition, nous passons à votre page des sports. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football continue de faire parler d'elle. Effet surprise pour certains, dans un entretien sur Facebook avec l'ex-gardien de but des éléphants Coupa Bari, l'ancien international ivoirien Yaya Touré, champion d'Afrique 2015 avec son pays, apporte son soutien à son ex-coéquipier en sélection Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIFA.
C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire, souvent parce que je n'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, si on veut voir les choses en face, moi je crois que pour moi, aujourd'hui, si on donne la chance à Didier, je veux qu'il gagne cette élection-là. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'aujourd'hui le football change. Il faut qu'on soit plus moderne. Parce qu'aujourd'hui, avoir un joueur de cette trempe-là qui va aller en Afrique pour s'investir, parce qu'il avait la possibilité de travailler peut-être à Chelsea, peut-être aux États-Unis, parce que j'ai entendu, je sais. Mais aujourd'hui, s'il veut s'investir, pas que je ne dis pas que voilà, Idriss et puis Souris ne méritent pas. Ils peuvent le mériter, mais moi je pense qu'aujourd'hui, le candidat que moi je veux, c'est Didier. Si je vois Didier dans le fauteuil du président de la fédération, ça sera un bonheur.
Il y a souvent eu des bruitages de mésentente entre Yaya Touré et Didier Drogba en sélection autour du brassard de capitaine. L'ancien pensionnaire de l'ASEC Mimosa revient sur ses relations avec son ex-capitaine.
C'est vrai que bon, voilà, c'était le grand frère, c'était mon capitaine. Les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi, mais on est toujours resté tranquille, sage, on se connaît. Mais moi, le plus important, c'était le bien pour le pays. Et aujourd'hui, quand je dis je soutiens Drogba, c'est pour le bien aussi du pays.
Yaya Touré qui trouve intéressant l'engouement que suscite aujourd'hui cette élection à la présidence de la FIFA.
C'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, je vois que le peuple ivoirien, tout le monde est voilà, concerné par ça. Tout le monde en parle, que ce soit la presse, showbiz, tout le monde en fait en parle. C'est vrai que le football ivoirien est en difficulté. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment envie de ça.
Yaya Touré, ancien international ivoirien. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football était prévue pour mi-mai, mais a été reporté à cause du coronavirus. Les trois candidats déclarés sont Didier Drogba, Idriss Diallo et l'actuel premier vice-président de la FIFA, Souris Diabaté. En Europe, le championnat d'Allemagne de football reprendra le samedi 16 mai à huis clos pour sa 26e journée avec le derby de la Ruhr Dortmund-Schalke 04 à 13h30 GMT et non le vendredi 15 comme précédemment annoncé. Le leader, le Bayern Munich, qui compte 4 points d'avance sur Dortmund après 25 journées, jouera dimanche 17 à Berlin contre le promu Union à 16h GMT. La Bundesliga sera ainsi le premier grand championnat européen à se relancer sans spectateurs après 9 semaines de pause forcée à cause du coronavirus.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'était le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kibza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans pour recel de déniers publics et blanchiment de capitaux par la justice ivoirienne le 28 avril dernier. Et avant-hier encore, la justice ivoirienne l'accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État après l'annonce d'une découverte d'armes et arrestation de soldats présumés proches de Guillaume Soro. Le point de vue de certains Ivoiriens dans ce micro-trottoir réalisé par Aïcha Diarra.
Soro Diom, c'est un Ivoirien. Soro Diom a été le président de l'Assemblée nationale. Soro Diom a bataillé pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Si on doit arrêter Soro Diom, c'est pas pour des futilités. Soro Diom n'a rien à voir avec ce que le gouvernement a mis en place. Soro Diom s'est présenté pour être candidat. On le laisse qui se présente en 2020 comme candidat aux élections présidentielles. Non.
Moi, je crois que le pouvoir a raison. Parce que moi, je me réfère toujours à la rébellion. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui était là comme un porte-parole. On voit que non, c'est lui-même qui téléguide les frères d'âme contre l'autre. Pour se faire tuer. Mais parce que nous, on a la preuve par rapport à ce qui s'est passé dans la rébellion.
Soro a tué plus de nos frères que tout le monde dans la rébellion avant de s'imposer. Et c'est ce qui le suit jusqu'à aujourd'hui. S'il veut réussir dans ces pays-là, il n'a qu'à se rendre chez nous. Il va demander pardon à tous ses alliés, à tous ceux qu'il a tués. Sinon, tout ce qu'on rencontre vous dit que non, c'est sinon, c'est entre lui et ses frères. Ouattara, Ogu, Okavelo. Bon, ce sont ses frères. Mais son véritable problème là, l'origine là, il n'a qu'à se retenir chez ses alliés, puis il va demander pardon. Sinon, il demande pardon aux Ivoiriens là. C'est pas aux Ivoiriens qui a fait du mal, mais il a fait plus du mal à ses alliés que tout le monde. Donc, il a laissé de ça si sa main.
Je pense que s'il est coupable, la justice va faire son travail. La justice a fait son travail. S'il est coupable, il assume. S'il n'est pas coupable, ok, qu'on lui enlève ce qu'on lui a collé, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le climat politique actuel.
On appelle déjà pour l'élection à venir, puisque Soro était avec ce gouvernement actuel. Maintenant, c'est devenu bizarre entre eux. Donc, nous souhaiterions que ce gouvernement actuel essaye de mettre un peu d'eau dans les vins pour ne pas qu'on va revivre ce qu'on a déjà vécu, en fait. Parce qu'on a peur déjà. Parce que quand il y a problème, c'est nous, la jeunesse, qui prenons les taux cassés.
Ça paralyse le pays. Quand on parle de Soro Guillaume, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Pourtant, on dit que c'est lui qui était le patron de la rébellion en Boaké, les forces nouvelles. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, au dernier moment, il vient se mettre contre Alassane parce qu'il était proche de lui. Mais je ne sais pas.
Je pense bien que la politique, c'est un jeu. Mensonge, parce que ce monsieur Léon, c'est là qu'on lui pour chercher à le mettre tel qu'il est. Vraiment, c'est décevant, c'est honteux, c'est de l'injustice.
Si vraiment il est responsable de ce qu'on l'accuse, et parce que normalement dans le GP, il doit venir même en Côte d'Ivoire pour répondre de ses actes. Il ne doit pas rester là-bas, même si c'est un peu mal vu normalement. Peut-être c'est ce que moi je pense que peut-être les autorités étaient au courant de ça depuis longtemps, mais ils n'ont pas fait sortir. Peut-être que c'est à cause des élections qu'ils ont fait ça. Mais si en réalité il a détenu les fonds publics, les fonds de l'État pour s'acheter une maison, mais faire quelque chose d'autre avec, il pense qu'il doit répondre de ses actes.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Gabon achève sa première semaine de confinement partiel pour aider les ménages en situation de détresse à tenir le pari des restrictions de liberté. Le gouvernement a financé une banque alimentaire. Mais la stratégie de distribution des kits et autres bons d'achat dans les quartiers populaires de Libreville et ses environs et véritable casse-tête. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
Dans ce quartier du 2e arrondissement de Libreville, les populations se bousculent pour accéder aux équipes de distribution des denrées alimentaires. La mise en œuvre de la promesse du gouvernement de soulager les citoyens économiquement faibles durant cette période de confinement est mal organisée sur le terrain. Les plaintes des éventuels bénéficiaires remontent à la surface. Paul Anissé Molongui est notable du quartier Niali.
Ils ont mis d'abord le même côté. Le côté que tu vois là, jusqu'en bas, là, jusqu'au fond là-bas. Personne, même pas un bon. Niali est déjà terminé.
Autre situation bien difficile à gérer par les autorités, le respect de la distance d'un mètre pour les bénéficiaires des bons d'achat alimentaires. Ils font la queue devant les grandes surfaces commerciales. Choisindo est un vieil homme coincé dans l'herbe.
Je crois que c'est
Chantal, Vanessa et Diane sont déjà passées dans les rayons pour récupérer leurs kits alimentaires en contrepartie des bons d'achat qu'elles ont reçus.
Bon, on est satisfait, mais pas vraiment à 100% parce que les prix ont augmenté. Donc tu vois qu'avec un bon d'achat de 25 000, tu vois que bon, ça tient, mais pas vraiment.
Face à toutes les critiques visant son département par rapport à la gestion de la banque alimentaire, Prisca Kowo, ministre des Solidarités Nationales, apporte des précisions suivantes.
Là, il est arrivé qu'à l'épreuve du terrain, nous soyons amenés à faire des ajustements. Mais qu'à ce qu'un le tienne, le plus important pour nous, c'est de toucher. À côté de ça, mon collègue en charge du commerce a pu réceptionner des bons. S'il arrivait par un malheureux hasard que les bons ne puissent pas tenir, mais nous avons le complément en nature que nous pourrions apporter aux personnes qui n'auront pas bénéficié de ces bons. Donc en réalité, c'est une opération qui, pour moi, aurait dû être fluide. À partir du moment où les gens sont dans leur maison, les populations restent chez elles, nous venons jusqu'à elles. Si nous n'avons pas pu arriver, nous avons même mis à disposition un numéro gratuit 1441 permettant d'appeler. Nous avons près de 4000 appels en 3 jours.
Initiée en avril dernier, cette opération de distribution des aides alimentaires aux Gabonais économiquement faibles se poursuit avec pour objectif d'atteindre 60 000 ménages d'ici la fin de la période de confinement partiel du Grand Libreville, prévue ce dimanche. Libreville, Ismaël Obianzi, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le secteur de l'enseignement est obligé de s'adapter face au Covid-19. Après la fermeture des écoles pour éviter les rassemblements, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes d'enseignement à distance, soit à la télévision, soit sur Internet. Mais ces programmes d'enseignement sont-ils adaptés en Afrique où l'accès pour tous aux nouvelles technologies pose problème? Comment faire pour éviter que l'année scolaire ne soit perdue? Faut-il développer l'enseignement à distance en Afrique? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 7 mai 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
L'Afrique du Sud, en confinement depuis 6 semaines, a commencé il y a quelques jours à donner un peu d'air à sa population et à son économie. Le professeur Salim Abdoul Karim, à la tête du comité d'experts qui conseille le gouvernement sud-africain, pense que ce confinement était et reste pour l'instant nécessaire pour ralentir la progression de la pandémie de coronavirus, mais qu'il ne l'évitera pas. Patricia Huron pour les détails.
Il ne s'agissait pas de stopper l'épidémie, mais de gagner du temps. C'est ce qu'explique le professeur Salim Abdoul Karim, qui dirige le comité d'experts qui conseille le gouvernement sud-africain dans la lutte contre le Covid-19.
Maintenant que nous relâchons le confinement, nous allons commencer à voir plus de cas, c'est certain. Nous n'espérons pas échapper à l'épidémie. Nous avons de larges zones où il est impossible de mettre en place une distanciation sociale adéquate ou de se laver les mains régulièrement. Notre rôle est donc d'aplanir la courbe afin que les hôpitaux puissent faire face, pour que le nombre de lits disponibles, de lits en soins intensifs, corresponde au nombre de cas.
Un élément central de la stratégie sud-africaine, le dépistage massif. Nandi Nkrumalo fait partie des milliers d'agents de santé qui ont été déployés dans le pays avec des questionnaires pour tenter d'identifier les personnes susceptibles d'être infectées et de les encourager à se faire tester.
Ici, vous avez un questionnaire avec des symptômes du coronavirus. Est-ce que vous avez mal à la gorge ou bien le souffle court? Et puis si vous remplissez le formulaire et vous dites oui, vous pouvez aller vous faire tester là-bas, au stade, et vous saurez si vous avez le coronavirus ou pas.
Selon le ministère de la Santé, plus de 7 millions de Sud-Africains ont déjà été en contact avec ces détecteurs du virus. Plus de 280 000 tests ont été effectués. Pour le professeur Salim Abdoul Karim, cette proactivité est nécessaire pour éviter que le système de santé soit débordé.
Nous avons environ 30 000 agents de santé communautaires déployés sur le terrain pour activement rechercher les cas dans les communautés. Ils vont de maison en maison, détectent les personnes avec symptômes et les testent, au lieu d'attendre que les patients arrivent dans les hôpitaux déjà malades. C'est notre intervention rapide qui a permis de gagner du temps et de mettre ça en place.
Mais l'épidémiologiste pense que le pire est encore à venir pour l'Afrique du Sud.
Je m'attends à ce que nous ayons des centaines de milliers de cas, au minimum.
Les experts s'attendent à ce que l'épidémie atteigne son pic dans le pays entre fin juillet et début septembre. Patricia Huron, Johannesburg, pour VOA Afrique.
Tibor Nadji, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, s'est entretenu hier au téléphone avec des journalistes en Afrique. Des extraits de cette conférence de presse en ligne avec Lionel Runanira Gahima.
Aucun pays ne fait autant que les États-Unis pour aider les nations africaines à lutter contre le coronavirus, a affirmé hier Tibor Nadji, le monsieur Afrique du département d'État américain. Ces 20 dernières années, les États-Unis n'ont cessé de former des professionnels africains de la santé et aider leur pays à construire leur système sanitaire, a-t-il souligné. Selon lui, ce travail est maintenant mis à l'épreuve par la pandémie de coronavirus qui a tué plus de 70 000 personnes ici aux États-Unis et environ 1 500 en Afrique, Tibor Nadji.
Nous sommes de loin le plus grand pays donateur à l'Afrique et notre impact se fait sentir partout. Et maintenant, dans la lutte contre le COVID-19, cet engagement se poursuit. Aucune autre nation ne fait plus que nous sur plus de 780 millions de dollars que les États-Unis ont promis dans le monde pour lutter contre le virus. Près de 250 millions de dollars sont destinés à l'Afrique.
Un journaliste a demandé Tibor Nadji pourquoi les États-Unis ont cessé leur contribution à l'OMS, une décision que le patron de l'OMS a qualifiée de regrettable et qui est très critiquée par de nombreux experts en santé publique.
We are undertaking a 60 to 90 day evaluation.
Nous faisons une évaluation de 60 à 90 jours de la réponse de l'Organisation mondiale de la santé face à cette urgence COVID. Et comme le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a dit lui-même, en gros, vous savez, l'OMS a un seul travail, une seule mission, empêcher la propagation de la pandémie. Cela ne s'est pas produit. Ce n'est pas le premier échec. Nous avons été le plus grand bailleur de fonds de l'OMS et il est de notre responsabilité de veiller aux intérêts des contribuables américains qui ont financé à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an. Encore une fois, je dirais que le terme correct n'est pas à couper les vivres, mais suspendre le financement pendant le processus d'évaluation.
Tibor Nadji a ajouté qu'il ne pouvait pas quantifier les articles, y compris les respirateurs, que les États-Unis ont envoyés ou prévoient d'envoyer aux pays africains.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, Georges Léonard Sagnon, Michel Joseph et Josène Morissin. À la présentation, Eric Manerek. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Ton point, tu es dedans. Dieu te voit.
Ce que tu fais là, je te vois. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est compliquée. Ils font des écoles.